à votre santé. Bonjour les amis de RVM, aujourd'hui c'est la 206e émission de notre association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Avec moi,
Christian Max,
Daniel Cléo
et moi-même Mélène Mazur, nous sommes les trois habituels, le trio, pour vous faire un petit tour, on va dire, d'actualité et de réflexion. Sur les centres de santé. Alors, tout d'abord, je crois que Christian a quelques nouvelles à nous dire sur le front. Voilà, le front des maladies.
Oui, ben, puisque on est en saison, je dirais, favorable pour les infections respiratoires, et ben, ça se confirme tout à fait. Donc, l'activité des hôpitaux et de la médecine de ville est en augmentation dans ce domaine. La bronchiolite, toute la France est en phase épidémique.
Eh ben.
Ben donc, comme ça, il n'y a pas de souci à chercher. Pour le Covid-19, on a une tendance à la hausse, mais ce n'est pas non plus ce qu'on a connu il y a 2-3 ans. Hein. Ça reste, je dirais, une épidémie, malheureusement, comme les autres. Quoi. Comme celle qui vient en dessous, donc justement, la grippe, qui était elle aussi en augmentation. Et puis, on voit apparaître maintenant les gastro-entérites aiguës.
Oh ah oui.
Et la Picardie ne se détache pas ni dans un sens ni dans un autre du reste de la France.
Bien, alors, à bon entendeur, salut. Faites attention à vous.
Faites-vous vacciner quand même.
Et voilà. Lavez-vous les mains.
Voilà.
Alors, Daniel, je crois que toi, tu as eu des nouvelles sur des... Je ne sais pas si on appelle ça des centres de santé, des pseudo-centres de santé.
Ben, c'est un médecin urgentiste qui a fait un article intéressant sur le scandale des pseudo-centres de soins. Voilà, que le terme est choisi. Voilà, parce que bon, ben, on s'est aperçu qu'il y a une grosse déviance là-dessus et ça passe sur les centres de santé... soi-disant pseudo, sont axés de plus en plus sur les ophtalmos et les dentistes.
C'est eux qui sont pointés du doigt,
voilà,
surtout. Enfin, certains, pas tous, mais oui.
Il apparaît que c'est très lucratif, comme par hasard. Donc, le médecin urgentiste nous explique un peu tout ça, et qu'il y a eu beaucoup de scandales, et qu'il faut se méfier, il faut continuer d'être très, très vigilant, de ne pas aller voir n'importe qui, ni n'importe quand. Et ensuite, ce brave urgentiste a aussi attaqué sur le centre de soins non programmé. Et c'est ce qui s'est créé à Senlis. Hein.
À l'hôpital de Senlis.
Ce n'est pas une urgence classique de l'hôpital, une annexe de l'hôpital. C'est un centre de soins non programmé. Et là, attention, c'est un peu la médecine ubérisée, d'après les termes du médecin urgentiste.
Alors, on ne sait pas si c'est comme ça à l'hôpital de Senlis.
Non.
Mais dans d'autres endroits, c'est comme ça.
Donc voilà, méfiance, et soyez vigilants, parce qu'il y a des gens qui sont aux aguets de faire du fric sur la santé.
C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des médecins, souvent, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les malades qui ne sont pas toujours très compétents,
bien
le dire,
exactement.
Et puis qui prescrivent des examens inutiles, et comme par hasard des examens chers,
comme par hasard,
et qui sont là uniquement pour faire des actes et récupérer les remboursements sécurité sociale.
Oui. Sur ces centres de soins, le médecin urgentiste parle qu'on est arrivé pratiquement au même scandale que les EHPAD Orpea, etc.
À ce point-là, est-ce qu'il y a des dépassements d'honoraires dans ces centres qui
Certainement. Pas mentionné clairement, mais bon.
Oui. Alors.
Il y a une logique financière là-dessus. Voilà.
Bon, en tous les cas, c'est surtout orienté vers l'ophtalmologie et la dentisterie, qui sont deux secteurs où, malheureusement, il y a toute une partie qui n'est pas remboursable sécurité sociale, déjà.
Oui.
Hein, et d'autre part, où effectivement, comme le disait Christian, où on peut programmer des examens inutiles.
Voilà.
Donc, effectivement, ça demande d'être vigilant. Alors, est-ce qu'on peut se référer à des textes officiels pour mieux voir clair? Alors, pas forcément sur ces faux centres de santé, mais sur un débat que nous avons depuis que notre association existe entre maisons de santé et centres de santé. Je crois que tu as quelque chose à nous dire, Christian.
Ah oui, oui, ben moi j'ai été voir sur le site du ministère de la Santé, donc dans le code de la santé.
Oui.
Hein, je n'ai pas été inventé, ce n'est pas sorti de mon petit cerveau, parce qu'il est bien trop fatigué pour ça.
Voilà.
Et donc, bah, il faut aller voir dans une rubrique qui s'appelle l'exercice coordonné.
Mm-hmm.
Voilà. Si on veut faire dans la barre de recherche, on tape ça, il y a des chances pour qu'on tombe dessus. Alors, moi, je suis tombé dessus, et bah, j'ai vu un centre de santé, ils sont définis par l'article 63-23, alinéa 1 et suivant.
Donc, c'est du sérieux.
Voilà. Par contre, les maisons de santé, elles sont définies par l'article 63-23, alinéa 3, plus des circulaires dont je vous fais grâce. Mmh. Et fort heureusement, le législateur, dans sa grande sagesse et dans sa grande bonté, a résumé tout ça dans un tableau.
Ah, comparatif.
Comparatif.
Bravo.
Disponible en PDF.
Bravo.
Donc, c'est moderne.
Bravo.
Et qui liste les points d'accord et de différence entre centres de santé et maisons de santé.
Et parallèles, d'accord.
Voilà.
Ouais.
Alors, on commence par exemple par la naissance.
Oui.
Donc, pour les centres de santé, ben, c'est après-guerre. En fait, c'était les dispensaires.
Mm-hmm.
Alors, ça a changé de nom, mais ça existait déjà.
Oui.
Par contre, les maisons de santé pluriprofessionnelles, elles, ça date de 2007.
C'est récent.
C'est récent. Le niveau de recours, c'est le même. Premier recours principalement. Voilà. La forme juridique, personne morale, dans les deux cas. Par contre, pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, il n'y a pas de gestionnaire, alors que le plus souvent, il y en a un quand même dans les centres de santé. C'est souvent des collectivités territoriales.
Oui, collectivités ou hôpitaux.
Oui.
Oui.
Les implantations, c'est à peu près pareil, quoi. Surtout urbaine, mais quand même un peu rurale, de temps en temps. La composition professionnelle de santé, évidemment. Dans les maisons de santé, on trouve aussi des pharmaciens, des aides, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, etc. La grosse différence, c'est le statut des médecins, évidemment, puisque dans les centres de santé, ils sont salariés, alors que dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, ils sont libéraux. Et ça, on n'arrête pas de le répéter, mais je crois que... Il faudra encore le répéter souvent.
Oui.
Oui, donc c'est un regroupement, même si c'est un exercice coordonné. Oui. Je ne vois pas où est trop la coordination, sauf qu'ils sont sur le même bâtiment.
Oui. Il n'y a pas que ça, hein, parce que...
D'accord.
Donc je continue. Alors la population concernée, bah, c'est tous les usagers, mais particulièrement les précaires dans les centres de santé. Tous usagers dans les maisons de santé... Et ce qui est intéressant, c'est en dessous les tarifs pratiqués. Dans les centres de santé, ce sont les tarifs opposables.
Oui, alors tu expliques.
Un tiers payant, pas d'avance de frais pour CMU et AME. Et pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, j'y arrive, secteur 1 et 2 autorisés. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer les dépassements d'honoraires.
Oui, secteur 2, c'est dépassement d'honoraires. Oui.
Alors, l'organisation, c'est ce à quoi tu faisais référence, là. Donc, dans les deux cas, il faut quand même pratiquer l'exercice coordonné des soins. C'est-à-dire que les médecins doivent se rencontrer de temps en temps et discuter un peu de ce qui les préoccupe et des cas qu'ils ont eu à traiter. Mais on se doute bien que les libéraux, c'est pas trop, a priori...
Ils sont débordés, les
libéraux. Ils sont débordés. Le projet de santé, dans les deux cas, est obligatoire.
D'accord.
Voilà. Alors, le financement, là, je passe, parce que c'est à peu près les mêmes, quoi. Les mêmes types de financement. De toute façon, ça sort de notre poche.
Voilà.
Quelque part.
Oui.
Oui.
Alors, la différence fondamentale, pour moi, c'est que les centres de santé sont définis comme des établissements à but non lucratif.
Non lucratif, oui.
Oui,
c'est obligatoire, leur définition.
On est en secteur 1 et surtout pas autre chose.
Voilà, pas de dépassement d'honoraires. Et tu as dit en présentant la carte AME ou je ne sais plus laquelle autre,
CMU,
notre carte vitale.
Oui.
Et notre complémentaire santé, et on n'avance rien. Donc ça, c'est quand même la base hein, pour les usagers, pour les patients.
J'ai retrouvé un petit article. En 2009, il y a eu la loi soi-disant Bachelot qui supprimait l'autorisation préalable pour l'ouverture des centres de santé.
Donc, c'est là-dedans que se sont engouffrés les pseudo-centres de santé.
Voilà,
alors ça c'est...
Ça c'était 2009.
Oui, parce que quand on se souvient, nous, pour le centre de santé du Valois, ils ont travaillé dur quand même pour élaborer leur diagnostic de territoire, puis leur projet de centre, leur projet de santé. Donc c'est quand même quelque chose.
Oui, mais c'est obligatoire aussi pour les maisons de santé pluriprofessionnelles. Oui. Là-dessus, les obligations sont les mêmes.
Oui, alors moi ce que je voulais dire par rapport à la coordination, elle ne peut pas être la même, enfin... Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je ne crois pas dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Dans le centre de santé, ils ont un outil informatique commun où les dossiers des patients peuvent être consultés par les uns et les autres et ils peuvent prendre en soins non programmés lorsque un des médecins est absent, le patient ou la patiente peut avoir rendez-vous avec un autre médecin du centre de santé.
Oui, ça c'est pas précisé dans le tableau récapitulatif.
Voilà. Donc,
par contre, j'ai pas eu le courage de lire tous les articles parce qu'il y en a...
Oui. Voilà, parce que donc on rappelle quand même que c'est une spécificité du centre de santé et aussi d'accueillir donc les soins non programmés.
Et que c'est quand même réglementé.
Oui.
Ouais, ouais.
Bon,
mais encore une fois, c'est pas nouveau, ça date.
Eh oui.
1945, hein, c'était les dispensaires.
Ouais.
Oui, oui. Mais donc, enfin, il y a eu d'autres textes. Hein.
Ceux qui disent qu'ils savent pas ce que c'est, ils ont la mémoire courte, quoi, parce que ça existait déjà dans leur enfance.
Hein. Oui, c'est vrai.
Bon, écoute, voilà, ça nous permet déjà de voir un petit peu plus clair sur quelque chose que nous, on connaît, mais voilà, on a les textes. À propos de ce problème donc de pseudo-centre de santé, moi, il y a quelque chose qui a aussi attiré mon attention dans l'actualité, c'est le harcèlement... morale à l'hôpital. Il y a eu la PHP et des médecins qui ont été...
PHP, ça veut dire...
C'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Hôpitaux de Paris, oui.
Voilà.
Donc une direction, si vous voulez, hein, une organisation d'établissement, et condamnée pour harcèlement moral. Il y a eu des suicides de médecins, il faut le savoir, parce que aujourd'hui, ce n'est plus une logique de soins, c'est
humaine.
Une logique d'entreprise.
Humaine, côté humain, on le met de côté, il y a un gestionnaire qui dirige l'hôpital, voilà.
Et je vous lis ce que j'ai lu quand même, parce que ça m'a fait mal.
Oui.
Nous sommes passés donc d'une logique de service public à une logique d'entreprise, avec des impératifs financiers qui imposent de réduire les coûts de personnel à tout prix, en exerçant une pression visant à améliorer, entre guillemets, la productivité. Comment peut-on parler de productivité pour s'occuper de personnes malades ? Et donc, fini les valeurs d'empathie, d'humanisme et de bienveillance qui sont les fondements de la médecine, elles ont été remplacées par la tarification de l'activité, les groupes homogènes de malades, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Et voilà où on en est arrivé. Et là, c'est une pression en même temps sur l'éthique des professionnels de santé. On a entendu, moi j'ai entendu récemment un témoignage d'une soignante qui disait, si un malade a besoin qu'on soit un peu de temps avec lui, eh bien c'est d'autant moins de temps qu'on va donner à un autre.
Voilà.
C'est terrible ça. Mmh. Ouais. Donc je voulais dire que finalement, le problème de désertification médicale et d'orientation, de destruction quand même du système public, notre système de santé, on l'a dit que ce foie est malade, fait qu'on arrive à des dérives financières. Quoi, ce n'est plus du soin qui est en priorité, c'est de la comptabilité.
Oui.
Et je crois à ce propos, Christian, que tu avais quelque chose... à nous dire sur...
Les consommateurs.
voilà, de, il y a une association, enfin...
Oui, je suis donc abonné à l'UFC Que Choisir, simplement. Et ben, j'ai constaté que depuis quelques semaines, il y avait de plus en plus d'articles consacrés à la santé. Et y compris, donc, quelque chose qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est que l'UFC Que Choisir a décidé d'attaquer l'État pour inaction.
Oui, on a entendu ça.
Hein. En se
ça,
fondant c'est... sur ça, c'est... certains articles de la Constitution.
Bien.
Et elle a mis en ligne une pétition.
Ça va loin, ouais. D'accord. Oui, oui.
Que j'ai signée. Mmh. Et que j'invite tout le monde au moins. Et
quel est le titre, la pétition, si on veut la retrouver?
Il n'y a pas de titre. Y a... Moi, j'ai un texte de la pétition et ça choisir. Commence par un rappel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
D'accord. Très bien. Bah, écoutez...
Et l'article, lui, s'appelle l'UFC Que Choisir attaque l'État pour inaction.
D'accord.
Voilà.
Donc, fouiller.
Donc, voilà une piste aussi pour se faire entendre. Et moi, je vais rajouter autre chose, c'est que quand même, justement, face à cette inaction de l'État, où ça, c'est inaction, mais ce que je viens de dire sur l'hôpital, c'est pas inaction, hein, c'est quand même des orientations nuisibles, il y a des régions qui travaillent, elles, à faire reculer la désertification. Je suis allée sur le site de notre Fédération des centres de santé et je vous cite rapidement ce qui s'est fait récemment. En Île-de-France, donc on le savait, la région soutient des créations de centres de santé, donc c'est financièrement. En janvier 2023, eh bien, suite à un projet de loi de la ministre des Sports et des JO, elle a donné l'autorisation qu'il y ait création d'un centre de santé. Écoutez bien, hein, puisqu'il faut s'adapter en matière d'offre de soins au niveau des JO. Et donc, il y aura un centre de santé dans le village olympique et paraolympique, qui sera évidemment destiné aux délégations de sportifs et aux personnes accréditées par le CIO. Donc, c'est intéressant que ce soit pris en compte comme ça. Rapidement, il y a l'hôpital Foch à Suresnes dans le 92 qui ouvre un centre de santé. Donc, aussi, des hôpitaux peuvent en ouvrir. Et la région Occitanie fait fort. À Montpellier, donc, il y a l'ouverture dans un quartier. Hein, un centre de santé de quartier, mais aussi, il faut savoir que la région, en février 2022, a lancé la création de 19 centres de santé, et ceci au travers d'un groupement d'intérêt public. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des outils en tant que collectivité, créer des outils pour s'occuper de la santé. On pourrait souffler ça à notre président de région, parce que je crois que dans les Hauts-de-France, il y a fort à faire aussi.
Oui. Surtout dans l'Oise.
Ouais, oui, oui, tout à fait. Eh bien, chers amis, auditeurs, auditrices, nous avons refait le point sur, finalement, la couverture médicale, hein, d'une manière ou d'une autre, mal ou au contraire...
Ce qui va bien ou ce qui va mal.
Voilà, ouais. Effectivement, il y a moins de choses qui vont bien, ouais. Mais quand même, il faut les connaître. Et nous vous disons que nous nous retrouverons, comme d'habitude, le samedi, vous savez que vous pouvez nous écouter à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, et toujours en podcast. Et nos podcasts, vous le savez, nous les titrons. Vous pouvez choisir celui qui vous intéresse. Merci à tous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.